Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Un couple qui cherche un nouvel élan. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, image du couple franco-allemand ce soir pour le premier déplacement à l'étranger du chef de l'État français depuis son élection. Et alors qu'Emmanuel Macron a plaidé un peu plus tôt dans la journée pour ce qui ressemble à une Europe à plusieurs vitesses, y associer l'Ukraine au 75e jour de guerre. Et à Moscou, la démonstration de force du régime russe, défilé militaire, discours de Vladimir Poutine, moins grandiose qu'annoncé. L'actualité, c'est encore une peine plus légère pour François Fillon en appel. Dans l'affaire des emplois fictifs, un an de prison ferme au lieu de deux, le couple se pourvoit en cassation. Les législatives à Vénissieux dans le Rhône, le candidat insoumis investi ne convient pas aux communistes. Et puis c'est un peu l'été avant l'heure, hein, des pointes jusqu'à 30 degrés cette semaine alors que la sécheresse inquiète déjà. Et au téléphone sonne Fabienne.
On passe le bac ce soir Hélène, enfin les premières épreuves de spécialité passées à l'écrit enfin, puisque ça fait deux ans pour cause de Covid que les lycées sont contraints de s'organiser différemment. L'organisation d'ailleurs cette fois encore n'a pas été sans heurts ni sans protestation, mais on verra ensemble surtout quelles spécialités sont toujours les plus prisées, si les élèves se les sont appropriées, ce qu'il faut changer, aménager, améliorer, tout ça au 01 45 24 7000.
France Inter. Et c'est donc l'image du soir au terme d'une journée très européenne. Pour Emmanuel Macron, on va y revenir, le président français et le chancelier allemand, côte à côte. Emmanuel Macron, nouvellement élu, a réservé son tout premier déplacement à l'étranger à l'Allemagne, comme c'est désormais tradition. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Mais où en est le couple historiquement moteur de l'Union européenne ?
Eh bien, ils se cherchent encore, Hélène, même si tous deux affichent leur sourire face aux photographes. Même si Olaf Scholz se réjouit d'accueillir un ami proche, dit-il, un ami proche et fiable. Même s'ils sont à tu et à toi lors de cette conférence de presse qui est toujours en cours d'ailleurs derrière nous.
Donc, merci pour cette invitation et l'honneur qui m'est fait en ce 9 mai d'être présent côte à côte avec toi.
Malgré toutes ces marques de respect, voire d'affection, Macron-Scholz, ce n'est pas encore Macron-Merkel. La faute à la campagne présidentielle et désormais aux législatives. Les Allemands attendent de savoir si le président français aura une majorité pour gouverner. La faute aussi aux atermoiements de Berlin au début de la guerre sur fond de dépendance au gaz russe. Une relation personnelle donc encore à construire, mais sur le plan politique, ils savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Un conseil des ministres franco-allemands aura lieu au début de l'été. Emmanuel Macron, passage, sait qui sera alors son premier ministre. Il vient de le dire, évidemment, sans donner son nom. Le chef de l'État français sait surtout qu'il aura besoin de son partenaire allemand pour mener à bien les projets qu'il a annoncés aujourd'hui. La révision des traités et la communauté politique européenne.
Simon Le Baron en direct de Berlin avec Alexandra Bergel. Des propositions que vous évoquiez et que le chef de l'État a détaillées à Strasbourg aujourd'hui devant le Parlement européen en ce 9 mai qui commémore la déclaration de Robert Schuman et le début de la construction communautaire. Vous y étiez. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous.
C'était deux axes forts du discours.
Oui, il n'en avait pas parlé dans la campagne. C'est la première fois qu'il va si loin.
Je suis, je vous le dis, favorable à cette réforme institutionnelle. Et je souhaiterais que nous en discutions avec l'audace et la liberté nécessaires dès le Conseil européen du mois de juin.
Dès aujourd'hui, 13 des 27 pays de l'Union se disent opposés à une telle réforme poussée par le Parlement et la Commission. Emmanuel Macron prend cette position à l'heure où toute la gauche appelle à désobéir au traité. Alors il invoque le père de Martine Aubry.
Fidèle à notre histoire, porté par les fondateurs, par Jacques Delors.
Et enchaîne avec une autre figure socialiste.
Le président François Mitterrand ouvrit cette réflexion.
Celle d'une confédération qui irait au-delà de l'UE pour accueillir notamment l'Ukraine, les Balkans occidentaux, peut-être même le Royaume-Uni, la Suisse. Il imagine une communauté politique européenne avec quatre domaines de coopération. Sécurité, énergie, transport, infrastructure, où la circulation des personnes y serait facilitée. Il assure que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE prendrait plusieurs décennies. Ce chantier peut-être aussi.
Et cet après-midi, Maxence, au Parlement européen, c'était aussi juste après le défilé militaire russe, l'affirmation d'un contre-modèle.
En effet, les 27 voulaient montrer l'image d'une Europe vivante avec ces jeunes qui dansent en t-shirt vert, rose, bleu dans les allées de l'hémicycle.
Fais-toi plaisir, tu es libre de tes mouvements.
Avec cet hymne à la joie dans plusieurs langues.
El canto alegre.
À avec ses écrans géants où apparaissent des centaines de personnes connectées en visio, avec aussi ses réfugiés ukrainiens présents dans les premiers rangs.
Nous comptons tous sur vous.
Et la promesse que les propositions citoyennes de cette conférence seront vite reprises par les institutions, comme le droit à la déconnexion.
Maxence Lambrecq depuis Strasbourg, deux visions du monde aujourd'hui, puisqu'à Moscou, au 75e jour de guerre en Ukraine, donc Vladimir Poutine s'est placé en défenseur de la patrie face à la menace nazie, convoquant le souvenir de la victoire du 9 mai 45 sur l'Allemagne nazie.
Aujourd'hui, les milices du Donbass et l'armée se battent sur leur propre terre, là où se battaient les soldats des premiers tsars, Svetoslav et Vladimir Monomakh, où les héros de la Deuxième Guerre mondiale ont donné leur vie. Je m'adresse maintenant à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour la patrie, pour son futur, pour que personne n'oublie les leçons de la Deuxième Guerre mondiale.
Le président russe exhibe son armée sur la place rouge de Moscou, qui prend la tête ensuite de la marche des immortels autour d'un million de personnes, brandissant le portrait d'un ancêtre de la famille tué lors de la Seconde Guerre mondiale. Sylvain Tronchet, bonsoir. Vous êtes
bonsoir,
notre
Hélène.
Correspondant à Moscou. Sylvain, vous avez suivi toute cette journée une démonstration de force redoutée hein, ces dernières semaines, mais qui a finalement été plutôt classique.
Oui, c'était au fond un 9 mai presque comme les autres, sous Vladimir Poutine, dans un pays où la guerre est presque entrée dans une forme de normalité. Dans son discours, le chef du Kremlin a certes parlé de l'Ukraine, mais sans jamais prononcer le mot Ukraine. L'ennemi, c'est l'OTAN, c'est l'Occident, qui cherche, selon lui, à effacer les valeurs traditionnelles de la Russie, qui, elle, la Russie, peut compter sur son armée. Ça, c'était la parade militaire du matin. Et sur sa population, ça, c'était ce défilé, ce régiment des immortels dont vous parliez. Hein, des centaines de milliers de Russes, peut-être un million, dans les rues de Moscou, tenant dans leurs mains la photo d'un de leurs ancêtres ayant participé à la guerre, une énorme démonstration populaire où l'on a vu, chose très rare, Vladimir Poutine au milieu de la foule, serrant des mains. Le maître du Kremlin voulait parler à sa population aujourd'hui. Quand certains se demandaient s'il allait menacer le monde, il ne l'a pas fait. Il n'a pas non plus fixé d'objectif, encore moins tiré de bilan de son opération spéciale en Ukraine, comme il l'appelle. Au fond, c'est peut-être cela le plus inquiétant, c'est que la Russie ce soir semble installée dans la guerre et que personne ne voit vraiment où elle veut aller.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, commémoration multidiffusée évidemment aujourd'hui sur les chaînes russes, mais piratée aussi. Le nom de certains programmes remplacés par des messages de soutien à l'Ukraine, c'est un article à lire sur franceinter.fr. La victoire sur l'Allemagne nazie de 45 était aussi commémorée en Ukraine aujourd'hui. Volodymyr Zelensky l'a rappelé dans une vidéo où il accuse d'ailleurs Moscou d'avoir oublié tout ce qui était important dans cette victoire. Mais il y a aussi ces Ukrainiens qui restent nostalgiques de l'Union soviétique et qui ne sont pas loin de soutenir Vladimir Poutine. Éric Audra et Mathilde Dehimi ont rencontré des habitants de Dniepro devant le monument aux morts.
Elle dépose des lilas et des œillets avant d'entonner des chants de l'église orthodoxe de Moscou. Soudain, la police les interrompt. Il faut partir à cause d'une nouvelle alerte aérienne. Les autorités ne voulaient pas de grands rassemblements officiellement pour des questions de sécurité. Mais Ludmila ne veut pas renoncer à cette cérémonie. Son beau-père était dans l'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, infirmière sur le front.
On ne peut pas trahir nos parents. On continuera à venir. C'est notre tradition. J'aurais voulu regarder le défilé de Moscou, mais les télés russes sont censurés. Ici.
Son mari, Ivan, jette un œil autour de lui, un peu gêné d'assumer une position pro-russe.
On ne peut pas être franc avec vous. Pour notre sécurité, certaines vérités ne sont pas bonnes à dire, mais elles ressurgiront un jour ou l'autre.
Sur la place, les gens passent serrés la main d'Alexei, colonel dont l'uniforme croule sous le poids des médailles.
Ça, c'est ma médaille pour avoir servi sur un char. Je ne vais pas renier notre histoire, mon uniforme soviétique. Ça ne veut pas dire que je suis un ennemi de l'Ukraine, notre patrie.
Les anciens regrettent la foule des temps passés. Il y avait des mers de fleurs, disent-ils. Ils ne sont pas prêts à renoncer à commémorer le 9 mai.
Les reportages de nos envoyés spéciaux Mathilde Dehimi et Éric Audra.
Après sa deuxième condamnation, le couple Fillon va donc se pourvoir en cassation.
La peine est un peu plus légère en appel, hein, mais François Fillon est tout de même condamné une deuxième fois à de la prison ferme. Un an au lieu de deux en première instance, 3 ans de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité pour l'emploi fictif de son épouse Pénélope, elle-même condamnée une nouvelle fois, 2 ans de prison avec sursis. Le couple devra aussi payer 75 000 euros d'amende et il a donc annoncé son intention de se pourvoir en cassation, Mathilde Vincent.
François Fillon et son épouse ne sont pas venus au palais de justice pour entendre la cour les condamner. Ils contestent la décision. Si les peines sont moins sévères qu'au premier procès, c'est parce qu'elles ne concernent que deux contrats d'embauche de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. Pour un troisième, la cour a prononcé une relaxe et c'est sans doute ce qui pousse les époux Fillon à se tourner désormais vers la cour de cassation. L'avocat de l'ancien premier ministre constate qu'au fil de la procédure, les fautes reprochées au couple sont de moins en moins nombreuses. Maître Antonin Lévy sur France Info.
On était d'abord sur un emploi fictif depuis 1981, qui est finalement jugé pour un emploi fictif à partir de 1998. Et aujourd'hui, à l'issue de l'arrêt de la Cour d'appel, on vient nous dire qu'il y a 6 ans d'emploi fictif pour lesquels on est relaxé et 7 ans d'emploi fictif pour lesquels on est finalement condamné. Donc on a bon espoir qu'en effet, en poussant encore le raisonnement un petit peu plus loin, on arrive à ce qui est finalement la réalité. C'est un emploi qui est démontré.
En attendant que la plus haute juridiction tranche sur cette affaire, cela pourrait prendre plusieurs mois. Les peines ne pourront pas s'appliquer, elles sont suspendues. Le couple et le suppléant député de François Fillon, Marc Joulot, devront en revanche, quoi qu'il arrive, payer 800 000 euros de dommages et intérêts à l'Assemblée nationale.
L'actualité judiciaire, c'est aussi ce procès si attendu par les familles des victimes du crash de la Yemenia Airlines il y a 13 ans au large des Comores. 152 victimes et une miraculée, une fillette de 12 ans restée agrippée aux débris pendant des heures en pleine mer. Elle était là aujourd'hui à l'ouverture du procès de la compagnie pour homicide et blessures involontaires. Et puis c'est le plus haut responsable jamais jugé en France pour le massacre des Tutsis il y a 28 ans au Rwanda. Un ancien préfet, Laurent Boussy-Baruta, accusé d'avoir orchestré, d'être complice de plusieurs massacres de dizaines de milliers de Tutsis et Hutus modérés à Gikongoro, au sud-ouest du pays. Emmanuel Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Le procès doit durer 2 mois parce que l'accusé, qui est âgé de 78 ans aujourd'hui, est en mauvaise santé.
Oui, l'ancien préfet de Gikongoro est arrivé en fauteuil roulant, poussé par l'un de ses avocats, même si on l'a vu à la pause marcher avec une canne. On sait que Laurent Boussy-Baruta devra être dialysé 2 fois par semaine. Le président de la cour d'assises a effectivement étalé ce procès sur 2 mois avec des journées d'audience d'une durée maximale de 7 heures et des pauses plus fréquentes qu'habituellement pour éviter une trop grande fatigue.
Jugé 28 ans après les faits, une instruction trop longue a dénoncé les avocats qui ont fait une demande d'annulation du procès.
Oui, c'est l'un des avocats français de Laurent Boussy-Baruta, maître Jean-Marie Biju Duval, qui a plaidé cette demande d'annulation. Il aura fallu, dit-il, après le dépôt d'une première plainte en 2000, 12 ans pour que les enquêteurs puissent enfin se rendre au Rwanda et 10 ans de plus pour aboutir à un procès. C'est injustifiable, inéquitable, au-delà de sa santé plus que défaillante, dénonce l'avocat qui se lance alors dans une plaidoirie sur le fond, évoquant ses 5 témoins clés à décharge, tous morts, et notamment un maire, un évêque, une présidente de l'association Caritas qui vivaient sur place et qui ont tous répété sur procès verbal qu'ils ont assisté à des réunions du préfet juste avant les massacres et qu'ils n'avaient en rien donné des consignes d'extermination des Tutsis. Les avocats de la partie civile ont alors rappelé que les victimes aussi ont attendu bien trop longtemps. Elles ont également des témoins qui sont morts. Au bout d'1h30 de délibéré, la cour d'assises a décidé que ce procès pouvait se tenir.
Emmanuel Leclerc en direct du Palais de Justice de Paris. Et l'actualité nous emmène aussi ce soir au Sri Lanka où la révolte gronde depuis des semaines sur fond de crise économique sans précédent. Des affrontements entre partisans du pouvoir, policiers et manifestants ont fait au moins 5 morts et 100 de blessés ces dernières heures. Le Premier ministre a décidé de démissionner pour éteindre l'incendie, mais ça pourrait ne pas suffire, Nathanaël Charbonnier.
Le Premier ministre a démissionné, mais c'est le président qui se trouve dans l'œil du viseur. Il faut dire que les deux frères au pouvoir doivent affronter depuis plusieurs semaines une véritable colère sociale d'une partie de la population. Depuis des mois, en effet, les 22 millions d'habitants de l'île, qui se trouve à la pointe de l'Inde, subissent de graves pénuries de produits alimentaires, mais aussi de carburant ou encore de médicaments. C'est l'une des conséquences de la pandémie de Covid-19. Le pays s'est retrouvé isolé, sans tourisme, qui est l'un des secteurs clés du Sri Lanka. Conséquence, une crise économique grave que n'aurait pas su gérer le duo au pouvoir. Les incidents du jour opposent donc l'opposition dans la rue au camp loyaliste. Les heurts ont eu lieu lorsque des manifestants pro-gouvernement ont tenté de déloger à coups de bâtons et de matraques l'opposition qui campe non loin du bureau présidentiel. La police s'en est mêlée, un couvre-feu a été décrété pour la seconde fois en 5 semaines, il est étendu à toute l'île et permet surtout à l'armée d'intervenir.
Et puis aux Philippines, Ferdinand Marcos Jr. est bien parti pour réinstaller son clan familial au sommet du pouvoir, 36 ans après la chute de son père. Il se dirige vers une victoire écrasante à la présidentielle selon des résultats qui ne sont pas encore officiels.
À peine officialisés justement, y a-t-il déjà des accros dans la nouvelle Union Populaire à gauche
hein ? À Vénisseux, près de Lyon, c'est l'investiture du journaliste militant Tahabouaf, condamné pour injure publique, qui provoque des remous. Le communiste Fabien Roussel demande à la France Insoumise de revoir sa candidature. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Est-ce que c'est de nature à remettre l'accord global en cause ?
Alors en aucun cas. Pierre Lacaze, d'ailleurs le négociateur du parti, l'assure, il précise le litige. Tous les partis sont convenus de ne pas présenter de candidat, de candidate sous le coup d'une mise en examen ou d'une condamnation. Alors dans le cas précis, Tahabouaf a été condamné en septembre dernier pour avoir traité la très médiatique syndicaliste policière Linda Kebab d'arabe de service. Il a écopé d'une amende de 1 500 €, il a fait appel. La peine est donc suspendue jusqu'à ce que dira la justice dans un futur qu'à cette heure on ne sait pas encore évaluer. La direction des Insoumis maintient son soutien au jeune journaliste qui s'est illustré dans les manifestations contre les lois travail, contre la loi sécurité globale, investi dans le collectif La Vérité pour Adama et qui est aussi l'auteur de la vidéo Place de la Contrescarpe à Paris qui a fait flamber l'affaire Benalla. Le Parti Socialiste, Canal Officiel, refuse de commenter. Les proches de Julien Bayou, le patron des écologistes, déplorent une phrase maladroite qu'il a d'ailleurs regrettée et considère que ça ne fait pas du franco-algérien un raciste. Enfin, le NPA vient de lui apporter son soutien. Il y a des candidatures qui dérangent, c'est pour cela qu'elles doivent être soutenues. Signé Philippe Poutou.
Laurence Perron. Il y a comme une montée en température. 28 degrés à Toulouse, 27 à Nantes, 26 à Paris, des pointes à 30 même attendues cette semaine, alors qu'on manque déjà d'eau et qu'on est parti pour 10 jours sans pluie, ce qui inquiète beaucoup cet éleveur d'Ille-et-Vilaine rencontré par Loïc Guélac de France Bleu Armorique.
L'herbe, s'il n'y a plus d'eau, de toute façon, on ne va pas les faire pâturer longtemps, les vaches non plus. Les années passées, on a réussi à faire des stocks, donc pour le moment, on n'a pas vraiment peur de ce qui peut se passer si on a de l'eau du coup régulièrement dans les semaines qui arrivent.
Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a eu un hiver très très sec.
Oui, du coup, qui ne nous a pas permis d'avoir non plus des sols qui étaient très frais. Dès qu'on a commencé à travailler les sols, c'était déjà sec. Au mois de février, on a réussi à faire des choses qu'on n'aurait pas fait les années d'avant. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans le pire du pire. Donc du coup, on espère toujours. On sait qu'il ne suffit pas grand-chose d'en avoir un petit peu régulièrement. Si on en a 5-6 mm toutes les semaines ou deux fois par semaine, ça serait largement suffisant.
Ouais. Samuel Radigue à la tête d'une exploitation de RC Prélifré qui attend la pluie, inquiète cette sécheresse. 10 départements ont déjà dépassé le seuil d'alerte. Allez, il nous montre enfin de quoi il est vraiment capable. Le télescope spatial James Webb est fin prêt. Tous ses instruments sont opérationnels, bien calibrés pour qu'à 1,5 million de kilomètres de la Terre où il se trouve, il nous montre enfin de quoi il est capable. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Il vient justement de le faire et nous envoyer ses premières images test d'une qualité exceptionnelle.
Oui, la calibration pour un télescope, c'est l'étape où on vérifie la qualité des instruments avec des images test. Ici, c'est une partie du grand nuage de Magellan, bien connu, qui a permis de comparer deux générations de télescopes. Dès réception, l'image a ébloui Pierre-Olivier Lagage, responsable scientifique de MIRI, l'imageur spectromètre français du James Webb.
On le voit très bien quand on compare au satellite précédent, le satellite Spitzer. On voit des étoiles, les taches sont beaucoup plus petites. C'est vraiment ce qu'on cherchait à avoir. Et du coup, on a aussi une bien meilleure sensibilité et on voit des nébulosités.
Les nébulosités, c'est justement ce que les astronomes veulent percer. Grâce à la longueur d'onde choisie, l'infrarouge, le télescope agit comme un échographe. Il traverse les nuages de gaz et de poussière pour voir au-delà. Parmi les cibles visées, les toutes jeunes galaxies, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, et les exoplanètes. Une première liste d'une vingtaine d'exoplanètes a été établie. On veut connaître ce qui les compose. Pierre-Olivier Lagage.
Dans la première année, il y a des sources qui sont très très différentes, des exoplanètes par exemple où on pense qu'elles sont tellement chaudes que les roches sont fondues, donc on devrait avoir un océan de magma. Et peut-être que c'est d'ailleurs une étape au cours de laquelle la Terre est passée quand elle était très jeune.
Alors les toutes premières véritables observations de la NASA sont gardées secrètes. Peut-être les zones où naissent les étoiles, des chrysalides dont Hubble a pu voir les contours et nous envoyer des images, mais que le James Webb télescope pourrait dévoiler. Suspense donc, ce sera début juillet.
Voilà, rendez-vous au mois de juillet cet été pour ces premières images d'observation. On a compris que la NASA gardait le mystère sur ce qu'on verra exactement.
Et merci beaucoup Hélène Philly pour ce journal. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On passe le bac ce soir. Les épreuves de spécialité qui vont enfin avoir lieu à l'écrit. Ça commence après-demain, le 01 45 24 7000. En revanche, c'est tout de suite un coup d'œil sur le ciel juste avant.
La météo
avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Elodie Calac, encore une journée très ensoleillée, voilà pour demain.
Oui, seule une perturbation tentera sa chance sur la pointe bretonne, elle ne donnera que quelques gouttes. Ailleurs, du soleil, alors le matin, quelques nuages bas vite oubliés sur la côte aquitaine, la côte du Languedoc ou la côte corse. Du nord-ouest jusqu'aux frontières du nord, le soleil sera parfois un petit peu voilé le matin, ce sera le cas plutôt des Pyrénées au nord-est l'après-midi. Et puis notez qu'en montagne, les nuages se développeront l'après-midi, ils donneront quelques averses du Jura aux Alpes, voire un orage pour la Corse.
Et température estivale.
Oui, alors le matin, on prend quand même une petite veste, hein, puisque ça sera un petit peu juste pour la saison, 8 à 14 degrés, mais l'après-midi quelques degrés de plus qu'aujourd'hui encore, sauf près de la Manche. Il fera 17 degrés à Cherbourg, 19 à Brest, 24 à Lille et Perpignan, 25 à Nantes, 27 degrés à Paris, comme cet après-midi, 27 aussi à Strasbourg, Dijon, Nîmes, 28 pour Bourges, Lyon et Toulouse. On ira jusqu'à 30 dans le sud-ouest, à Bordeaux. Et puis mercredi, on atteindra souvent 27 à 30 degrés du sud-ouest aux régions de l'Est. Jeudi, vendredi, petite baisse avant une nouvelle hausse des températures à partir du week-end prochain. Ce n'est pas fini.
Elodie Calac de Météo France. Merci beaucoup, Elodie.